que l'on va chercher dans, d'autres disciplines et qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion, le processus qui va nous amener à percevoir ou à déterminer un certain nombre de comportements de ces chasseurs. Donc, voilà, hein, c'est non seulement un aspect, mais c'est aussi la démarche archéologique telle qu'on peut la pratiquer. Ceci dit, je n'avais pas évalué les difficultés que ce sujet pouvait entraîner, notamment le fait, tout simplement, que dans la mesure où mon exposé doit quand même une limite, doit se passer dans des limites raisonnables, hein, mais aussi, c'est un sujet un peu complexe, donc j'étais parfois un peu obligé de passer rapidement sur certains points. Voilà, donc, si je suis parfois un peu obscur, si parfois je suis un peu confus, vous me pardonnerez, j'espère, mais je sais aussi que vous pourrez me poser toutes les questions pertinentes qui permettront d'éclaircir certains des points que j'aurais mal abordés. Voilà, donc on va commencer par la première image. Voilà, vous connaissez la vallée de Planchetorte, hein, on monte par Saint-Antoine, on arrive à Chanlat, on redescend par les virages, et on arrive donc dans la vallée de Planchetorte. À droite, vous avez le golfe, et en face, vous avez le viaduc de Planchetorte. Nous sommes, si, je présume que vous êtes tous promenés dans cette vallée, superbe vallée, qui a en plus son conservatoire de plantes, hein. Donc, qui est aussi donc un des sites majeurs de la préhistoire du paléolithique d'Europe. Alors, il faut bien voir que là, vous avez une concentration de sites. Dans la commune de Brive, vous avez la concentration la plus importante de sites du paléolithique d'Europe. Hein, même si, naturellement, ce sont des petits sites et on ne peut pas comparer ça avec la commune des Éviques qui, elle, au contraire, a des sites extrêmement beaucoup plus importants. Mais il faut bien voir qu'il y a là un nombre de sites très importants et de plus un potentiel encore plus important. Donc là, nous sommes dans la vallée de Planchetorte, vous avez ici le viaduc, oui. Et là, c'est le viaduc, et dans ce noir, là, vous pourriez distinguer si vous vous promenez là, avant le viaduc, vous verrez des premières grottes, celles de Préaubert et de Lacoste, qui ont été fouillées dès 1900, par les abbés Wissoni, Bardon et Wissoni. Côte suivante. Bon, voilà, ici, ça, c'est la grotte de Champ, qui est aussi exactement près du viaduc, et qui est souvent une grotte de la région. Là, c'est donc vue de l'intérieur. Photo suivante. Et là, vous avez une carte de la Planchetorte. Donc, Brive, tout à fait là-haut, hein, en grandeur du cadre. Ici, vous avez le plateau de Bassalaire. Ici, vous voyez un certain nombre de grottes, dont notamment la grotte Wissoni qui est actuellement fouillée. Là, c'est la vallée de Planchetorte qui descend ici, jusqu'à Bélé. Bien, et on était là, dans sous le viaduc, ici, vous voyez une concentration de sites absolument exceptionnelle. J'avais fait visiter ça il y a déjà de nombreuses années à un préhistorien russe de Saint-Pétersbourg. Enfin, ça s'appelait Stalingrad. Leningrad à l'époque, qui avait été absolument stupéfait par le nombre de sites que je vous montrais dans cette région. Alors, il faut bien voir que nous sommes dans une région extrêmement riche en sites du paléolithique supérieur. Bien, donc, il y a ces sites de la vallée de la Planchetorte, vous en avez aussi autour du plateau de Bassalaire, ici, vous en avez jusqu'à Bélé, vous en avez aussi dans des vallées annexes comme la Comblongue, que suivait l'ancienne nationale 20, ou celle la vallée de la Courolle. Ici, où passe maintenant l'autoroute, et puis aussi d'autres vallées comme la vallée d'Orval. Mais photo suivante. Donc voilà, je voulais vous parler du paléolithique supérieur. Alors, il faut. La préhistoire, c'est un temps extrêmement long, plusieurs millions d'années. Et donc là, j'ai réduit sur les 200 derniers milliers d'années. 200 000 ans, c'est beaucoup, mais pour la préhistoire, c'est relativement peu. Bien, Ce qu'il faut savoir, si on s'intéresse à la préhistoire. Bien. Donc, si vous intéressez à la préhistoire, hein, de 0 à 200 000 ans, c'est qu'il y a différentes périodes, comme en histoire. Tout ce qui est ici, c'est-à-dire autour de 1900 ans à peu près, c'est l'âge des métaux. L'âge du bronze, l'âge du fer, et le dernier âge du fer, c'est les Gaulois. Hein, donc ici, nous sommes à la conquête, à la guerre des Gaules. Donc 1900, tout ça, c'est l'âge des métaux, et donc tout ça, c'est l'âge de la pierre. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité s'est déroulée essentiellement chez des gens qui ne connaissant pas les métaux, utilisaient la pierre, pas seulement la pierre, nous verrons, pour fabriquer des outils tranchants, notamment. Il y a l'âge de la pierre. Là-dedans, il faut distinguer deux périodes. Le paléolithique, ici, c'est-à-dire l'âge ancien, et le néolithique, ici, vers 5500 ans en France. Néolithique, c'est les paysans. Agriculture, élevage. Agriculture, élevage. Donc c'est là où on commence à trouver les premières graminées en France. Bien, donc là, ce sont essentiellement des paysans, les premiers paysans. Et ici, nous avons essentiellement des chasseurs, voire pêcheurs, voire cueilleurs. Donc à partir de 5500 ans. Donc là encore, la très grande majorité de l'histoire de l'humanité s'est passée avec des gens qui ne connaissaient ni l'agriculture, ni l'élevage, essentiellement chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Bien, là-dedans, il y a deux périodes, paléolithique supérieur, paléolithique moyen. Paléolithique moyen, c'est le Néandertal. Et paléolithique supérieur, c'est, disons, gros Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme actuel, c'est-à-dire à environ vers 35 000 ans, 35, 40 000 ans, il y a une autre population qui est venue remplacer ces Néandertaliens. Disparition des Néandertaliens d'un côté et présence d'hommes anatomiquement modernes, donc des hommes comme nous, à partir de moins 35 000 ans. C'est ce qui différencie en gros le paléolithique moyen du paléolithique supérieur. Il y a une période intermédiaire, mésolithique, où les premières, où on va commencer à trouver des traces d'horticulture. Donc voilà, c'est cette période-là, paléolithique supérieur, qui va nous intéresser. Ce sont donc des hommes anatomiquement modernes qui pratiquent la chasse, un peu la pêche en fin de l'année, qui sont des nomades, comme je vous l'ai dit, puisque ce sont des chasseurs. Donc il n'y a pas de village, hein. Ce sont essentiellement des campements sous-abri ou des campements de plein air, donc des habitats plus ou moins permanents, saisonniers. Ils utilisent donc la pierre, essentiellement un outillage en pierre. Ici, ce sont des outillages sur lame. On en verra juste quelques exemplaires. Ils pratiquent un art figuratif et ils enterrent leurs morts dans des sépultures individuelles. Voilà en gros ce qu'on va dire. Photo suivante. On va revoir ça. Première chose, j'ai oublié de vous le dire. Peut-être si vous pouvez repasser là. Voilà. J'ai oublié de vous dire, ça, cette bande bleue correspond à des modifications climatiques. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une période, comme vous le savez, dans une période tempérée, mais elle a été précédée par des glaciations, donc notamment cette dernière glaciation, qui est la glaciation du Jurne, qui est terminée en gros vers moins 10 000 ans à peu près, hein, c'est jamais très net, et qui a dû commencer vers 70-80 000 ans, donc ici. Donc ici, nous sommes ici, dans le paléolithique supérieur, dans un climat froid. Hein. Photo suivante. Voilà. Ce climat froid, ça a entraîné notamment la formation de calottes glaciaires sur, ici c'est le nord, vous voyez, là c'est le pôle nord, ici le Groenland, ici le nord de l'Amérique, et ici le nord de l'Europe. Et vous voyez en violet, ce sont ces énormes calottes glaciaires qui existaient vers moins 20 000 ans, au maximum de ce froid. Et donc, d'énormes calottes glaciaires, et du fait que beaucoup d'eau était mobilisée dans ces calottes, notamment glaciaires sur les pôles, mais aussi
sur les reliefs comme ici sur les Alpes, eh bien, l'eau, la mer s'était retirée. Hein, le niveau de la mer avait beaucoup baissé, environ 120 mètres à peu près. Donc la mer s'était retirée très loin des côtes actuelles. Bien, photo suivante. Ça, c'est notre homme de Cro-Magnon, homme anatomiquement moderne. En fait, c'est une femme. C'est la femme de l'abri Pateau qui a été trouvée dans une sépulture. L'abri Pateau se trouve dans le bourg des Aisies. Et vous voyez tout de suite que c'est tout à fait le crâne actuel. Ça n'a rien à voir avec. Ben, ça n'a pas grand-chose à voir avec les néandertaliens, c'est-à-dire un front bombé. Hein. Ici, une mâchoire. Pointu comme nous, hein. Donc vraiment un ensemble très tout à fait semblable à notre propre morphologie. La seule différence, c'est qu'elle a toutes ses dents, plus de dents, ses dents de sagesse, alors que nous avons tendance à perdre nos dents de sagesse. Hein. Hein, voilà. Donc l'homme anatomiquement moderne. Photo suivante. C'est un chasseur, et à cette époque, au paléolithique supérieur, en Aquitaine, c'est essentiellement des chasseurs de rennes. Chasseurs de rennes, ça veut dire une 60-70% des restes osseux qui ont été trouvés dans les sites d'Aquitaine appartiennent aux rennes. Donc ils mangeaient beaucoup de rennes, énormément de rennes. Contrairement aux néandertaliens qui, eux, ont beaucoup chassé le bison. Bien, donc ce sont des chasseurs de rennes. Et ça, c'est une donnée que vous allez voir, qui va être très importante. Photo suivante. Autre chose, je vous ai dit qu'ils pratiquaient un art. Alors, je vais vous présenter la plaquette de Lacan, les plaquettes de Lacan. Je vous ai présenté celle qui a été trouvée à Bélé, hein, dans la vallée de Planchetorte, tout à fait. Une petite plaquette de grès. Et vous avez ici une tête de cerf, vous voyez, là, avec l'œil ici, et puis ici, les bois de cerf. Hein, donc, il y a, voilà, c'est une des œuvres d'art qui a été trouvée dans la vallée de Planchetorte. Œuvre magdalénienne. Photo suivante. Autre donnée, c'est, donc, ils habitaient, j'ai oublié de vous dire, donc, ils habitaient ces grottes, ces cavités. Mais ils les habitaient pas ainsi. Il y avait beaucoup d'aménagements, notamment ils connaissaient le feu depuis extrêmement longtemps, puisque le feu a dû apparaître à peu près vers 400. Enfin, la domestication du feu a commencé à exister vers au moins 400, 500 000 ans. Juliette, donc ça remonte beaucoup plus loin, profond dans la préhistoire, donc vers 35 000 ans. Et celui-là, il date à peu près de moins de 30 000 ans. Il y avait longtemps que le feu était domestiqué. Donc ça a été trouvé dans la grotte du Loup, de la Gaillardie, dans la veille d'Enval, du côté de Gallo. Et donc c'est un foyer, vous voyez, avec sa couronne de pierre. Donc Aurignacien, vers moins de 30 000 ans. C'est un exemple. Alors il y avait des foyers, il y en a d'autres, hein, des foyers comme ça. Il y en a un autre du côté à Neuf. Et puis vous aviez aussi des pavages, des vides en fait, qui permettaient d'isoler le sol. On pouvait y ajouter une litière de branchage ou des pots. Hein, donc il y avait tout un plein d'aménagements, il y avait une structuration d'espace aussi, il y avait des zones de couchage, des zones d'activité. Donc il ne faut pas imaginer ces cavités, simplement, on venait s'y installer. Ce sont des lieux aménagés, même s'ils étaient en propre, et c'était aussi le cas des campements de plein air. Photo suivante. Autre donnée, donc travailler la pierre, mais aussi travailler l'os, notamment. Donc ici, vous avez un certain nombre d'eaux qui ont été trouvées à Esclosure. Esclosure, c'est une grotte qui se trouve sur la rive droite de la Couze, au-dessus du lac de la Couze. Hein, du côté de, c'est dans la commune de Lissac-sur-Couze. Donc, c'est du Magdalénien aussi, c'est-à-dire les dernières périodes de cette époque, du paléolithique supérieur. Et bon, vous avez ici un poinçon, hein, très net. Vous avez ici une pointe de sagaie, Pointe de Saguet, avec ici, tout en haut, hein, vous voyez, vous avez une petite rainure, on y a inséré une petite barbelure en silex. Et puis vous avez aussi, ça c'est un fait très intéressant, très important, c'est des aiguilles à chat. Les aiguilles à chat, ici, il y en avait peu, mais on en a trouvé des milliers et des milliers dans les cassés, généralement, mais on en a trouvé des milliers dans les sites préhistoriques. Elles commencent à apparaître vers moins 20 000 ans. Aiguilles à chat, vous voyez tout de suite que ça implique énormément de choses. Énormément de choses. D'une part, le fait qu'on savait fabriquer le fil. Des fils. Hein, c'est des aiguilles qui font environ 1 mm d'épaisseur, pas plus. Hein. Ces populations savaient fabriquer du fil. Ils le fabriquaient à l'aide de tendons de rennes, probablement à l'aide de tendons de rennes. Donc ils fabriquaient du fil, ça veut dire qu'ils faisaient de la couture, qu'ils fabriquaient des vêtements cousus. C'est très important. Vous voyez tout de suite que on est très loin de la vision de nos préhistoriques tels qu'on l'imaginait au XIXe siècle, c'est-à-dire des gens avec cette fameuse tunique en peau de bête, hein, que tout le monde a vu et qu'on trouve pas dans les bandes dessinées. Pas du tout, ce sont des gens qui avaient des habits cousus, c'est important quand vous êtes en climat glaciaire. Donc voilà, il y avait donc une panoplie d'outils extrêmement importants. On va en voir d'autres. Voilà, des naturellement silex. Ça, c'est la grotte de Fontier qui se trouve sous Bas-Salaire, mais côté golfe. C'est d'Aurignacien. Ça a été fouillé notamment. Ça a été fouillé par les comtes de Thévenard. Et il y a deux outils principaux représentés. Il y a d'une part ce qu'on appelle les burins, qui servaient à travailler les matières denses. Par exemple, comme l'os, une sorte de scie à une dent. C'est-à-dire qu'on rainurait l'os avec cette pointe ici qu'on appelle le biseau. Hein, et on allait pouvoir dégager des lames, des lamelles avec lesquelles on allait pouvoir faire ces outils que je vous ai montrés tout de suite. Bien. Et puis, le deuxième outil très important, là, on est vraiment dans les deux outils les plus importants de la boîte à outils du paléolithique, c'est-à-dire les burins. Et les grattoirs. Grattoir, c'est ça. Vous voyez tout à fait en haut, c'est forme arrondie. Grattoir, c'est ça le grattoir. Hein. C'est essentiellement cette partie semi-circulaire qui est la partie active. Et vous voyez aussi que ces objets sont fabriqués sur ce qu'on appelle des lames, c'est-à-dire des produits allongés. Ils sont très caractéristiques de ce paléolithique supérieur. Donc, grattoir, photo suivante. Voilà, ça c'est une femme esquimaux du Groenland, et qui est en train de travailler une peau de phoque, donc c'est une peau de phoque, avec son outil qu'ils appellent Oulu. Donc c'est ce grattoir, voilà, c'est l'équivalent de ce du grattoir paléolithique que je viens de vous montrer, donc ça permet d'écharner, de nettoyer les peaux. Et c'est certainement avec ces outils, ces grattoirs, que les paléolithiques ont nettoyé les peaux. Hein. Nous avons vu qu'ils fabriquaient des vêtements, donc au préalable, ils devaient travailler ces peaux. Et donc, voilà, ça c'est le... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, grattoir... je ne sais plus. C'est pas grave, on va continuer. Photo suivante. Bien. Alors voilà, on a vu un petit panorama. Naturellement, je suis allé très rapidement pour vous montrer ces zones, hein, et notamment toute leur culture technique. Hein. Je pense que vous avez compris qu'ils avaient une technicité extrêmement très élaborée, notamment le fait de tailler les pierres, le silex que nous avons fait. Je pense que c'est ma génération qui a à peu près, maîtrisé 95% les techniques qu'avaient mises au point ces paléolithiques. C'est-à-dire qu'on a essayé de refaire les mêmes outils, et donc on a retrouvé des trucs techniques extrêmement complexes, ce qui veut cette technique était notamment la fabrication des outils en pierre, est quelque chose d'absolument, c'est un véritable artisanat, on pourrait, c'est-à-dire une technicité d'artisan, même si ce n'était pas des artisans, puisqu'ils étaient aussi chasseurs en même temps. Mais c'est donc tout un contexte extrêmement très riche que l'on découvre petit à petit à mesure que notre connaissance de ces populations s'affirme. Bien, alors on va voir maintenant le problème de l'espace. Ici, vous avez l'Aquitaine, Bordeaux, c'est tout à fait là-bas, hein, et vous avez ici le Massif central jusqu'au chaîne de Puy, ici. Bien, et donc là, ce sont les sites qui sont aurignaciens. Aurignaciens, c'est en gros vers une période, ce n'est pas l'utile supérieure, c'est en gros vers 35 000, 30 000 à peu près, peut-être un peu moins. Donc, voilà, ça c'est tous les sites qui ont été trouvés au paléolithique pour cette période à l'Aurignacien, et vous voyez la grande importance de la commune de Brive ici, hein, avec un nombre extrêmement important de sites, et puis naturellement ici, toutes celles autour de la région des Aisies, hein, et la Vézère ici, bon aussi, bon, aussi du côté de Fumel. Donc vous voyez, il y a une répartition des sites, surtout plutôt le long des vallées. Bien, un arrêt ici, quand le Massif central commence à monter, c'est-à-dire quand on commence à la sortie de Brive, hein, donc lorsqu'on monte au-dessus de 300 mètres, le nombre de sites disparaît. Bien, ça c'est le cas d'Aurignacien, photo suivante. Voilà pour le Magdalénien, c'est-à-dire l'autre partie du paléolithique supérieur, tout à fait à la fin, à une époque où le climat commence à évoluer vers le climat actuel, ce qu'on appelle le tardiglaciaire. Bien là, vous avez encore une répartition beaucoup plus étale de ces sites, avec naturellement cette très grosse importance de la région des Aisies. C'est tout le paléolithique supérieur, il y a ce point très important. Là, dans la région de Brive, il y a un peu moins de sites, hein, là, ça a évolué. L'occupation de l'espace a évolué entre le paléolithique supérieur et le début du paléolithique supérieur et la fin, notamment de cette époque. Des occupations plutôt tendance à se mettre vers le tertiaire. Voilà, donc ça c'est deux visions de cette répartition des sites dans l'Aquitaine. Et on va voir comment on peut comprendre quelle relation on peut avoir entre ces différences. Donc voilà, on reprend nos grattoirs et nos burins en silex, mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas l'outil en lui-même, mais c'est la matière première dans laquelle ils ont été fabriqués. Le silex, mais il y a différents types de silex. Par exemple ici, vous avez les silex les plus courants du paléolithique supérieur. Ça représente ces ensembles 80, 90, voire 95%, ce sont ce qu'on appelle les silex du Sénonien, silex noir, silex brun, les silex, on va voir une carte tout à l'heure, c'est celle que vous voyez peut-être quand vous promenez en Périgord, le long des routes, par exemple du côté du Bugue, dans les coupes de route, vous avez ces rognons de silex qui apparaissent, ou alors dans la grotte de Rouffignac, quand vous allez visiter la grotte de Rouffignac, vous verrez ces blocs qui se trouvent carrément dans la caverne. Bien, donc, premier silex du Sénonien, c'est-à-dire la fin du Crétacé, c'est-à-dire juste avant la fin des dinosaures. Voilà, premier type de silex. Un silex beaucoup plus important, c'est les silex du Bergerois qui ont été utilisés. Alors, il y en a, par exemple, celui-là. Naturellement, c'est très peu visible sur ces images. Mais ça, ça a été le top du top du silex mondial. Hein, le top du top du silex. Même les Canadiens nous en ont pris pour aller pour tailler, pas préhistorique, hein, je parle des Canadiens actuels, qui se sont ravitaillés en silex du Bergerois pour tailler leurs outils. C'est vraiment le matériau le plus intéressant. Il permettait notamment de sortir ces lames absolument formidables, comme ça, Hein, ils pouvaient sortir des lames de 25-30 cm de long. Donc vraiment un matériau idéal. D'où le fait que, ben, vous voyez ici, nous sommes dans la grotte de Fontive, et nous sommes quand même à 80 km de Bergerac, donc du lieu d'origine. Donc c'est vraiment des silex qui étaient tellement intéressants qu'ils ont beaucoup voyagé. Bon, ça c'est une donnée, mais qu'on n'abordera pas. Et puis ici, vous avez un silex du Fumélois, de la région de Fumel. Bien, il y avait d'autres silex, on va en voir. Photo suivante. Bien, alors le silex, c'est ça. Hein, voilà, c'est un rognon, ce qu'on appelle un rognon, tout simplement parce que ça ressemble un peu à un rognon. En voilà un, en voilà un deuxième ici, qui se forme dans le calcaire. Ça, c'est de la silice, ça, c'est de la calcite. Il y a une ségrégation entre la silice et la calcite dans les fonds marins, dans les boues marines. C'est donc les rognons de silex ne sont jamais que des conservations des glaciers métropolitains. Enfin, c'est tout simplement, étant donné qu'il y a cette ségrégation, le silex va avoir tendance à s'accumuler dans des accidents des boues marines, notamment les terriers de crabe, d'où ces formes un peu contournées de ces rognons de silex. Donc, ces rognons de silex qui nous intéressent, que l'on trouve donc dans les calcaires, dans certains calcaires, ça c'est un silex du Cénomien de la région des Aisies. Hein, donc, ce silex va être le matériau idéal pour faire les outils. Bien, tout simplement, c'est pour une raison très simple. Ce silex est crypto-cristallin, mais amorphe au niveau macroscopique, c'est-à-dire au niveau de la taille, un matériau qui ressemble au verre, en fait. C'est amorphe, c'est-à-dire non cristallin. Alors que, et ça va être très intéressant parce qu'on va, un, pouvoir le tailler et en faire des outils extrêmement coupants. Si vous avez taillé du silex, vous êtes coupé automatiquement les doigts. Bien, hein, vous pouvez. Bien, c'est du verre, hein, c'est carrément du verre. Donc, ça, c'est le matériau idéal pour faire des outils. Et notamment, vous voyez qu'il y a, là c'est un silex du Cénomien, donc un bon silex, il y a des silex encore bien meilleurs. Photo suivante. Donc voilà, ça le silex du Cénomien, c'est ça. C'est cette nappe, et là encore, ce sont tout ce que j'ai échantillonné sur le terrain, j'aurais pu centupler le nombre. C'est-à-dire qu'il y a une abondance, c'était le matériel courant de cette région. Mais vous avez d'autres silex. Par exemple, vous avez ici ce dont je vous ai parlé, le silex du Bergeracois, dans la région de Corbia. Hein, très charmant. Hein, là, je vais parler de. Voilà, je donne des noms qui causent. Hein. Bien. Donc, silex du Bergeracois. Silex tertiaire, par exemple, ici, dans la région de Dôme. Ici, dans la région de Dôme, comme ici au sud de la Dordogne. Bien, et puis vous en avez, oui, silex tertiaire, c'est-à-dire des silex lacustres. Puis en Corrèze, nous en avons quand même quelques-uns, même si, comme vous voyez, c'est très pauvre en type de matière première. On en a deux. Dans la région de Turenne, ici, ou au-dessus de Carénac, dans la région de Vérac, c'est les silex du Doguer, c'est-à-dire les silex du Jurassique moyen. Nous sommes toujours dans l'ère secondaire. Hein. Ça, c'est du Cénomien. Ça, c'est de l'ère secondaire. Mais là, c'est le Jurassique moyen. Donc, on est plus bas dans la chronologie. Voilà, silex, mais silex de qualité assez médiocre. Et puis, vous avez les silex jaspoïdes ici. Que vous avez ici, du côté du Puy d'Arlac. Hein. Aussi au nord de Turenne, ici. Et vous en avez tout le long du massif central jusqu'à la Châtre. Donc ça, c'est les silex jaspoïdes. On va donc, vous voyez que premier point, il y a des endroits où les silex naturels sont extrêmement abondants, et puis d'autres endroits où le bassin de Brie où ils sont extrêmement rares. Ce qui devait ennuyer nos chers préhistoriques, qui devaient les amener. D'ailleurs,
mais qui nous a été, pour nous, a été une providentielle, parce que ça va nous donner un thermomètre qui va nous permettre de percevoir certaines choses dans le comportement de ces populations. Donc le bassin de Brive est ici, et nos sites de la vallée de Blanchefort sont là. Photo suivante. Donc voilà, premier silex, silex noir, silex du Cénobien, celui classique, celui que je vous ai montré, le rognon, c'est celui-là. Bon, il y a des silex noirs, il y a des silex bruns aussi, je vous ai juste pris celui-là. Photo suivante, donc de très loin le plus avant. Ça se voit à peu près, oui, plus ou moins. Ça, c'est le silex du Bergeracois. Si la photo était un peu plus claire, on verrait des zonations. Je vous en voyais une ici, mais il y en a avec des zonations rouges, bleues, ardoisées, c'est-à-dire un silex très spectaculaire. Très caractéristique. Ça, c'est le silex du Bergeracois. Je vous dis le top du top. Photo suivante. Attendez. Juste cette petite tache blanche, on croit que c'est une inclusion, pas du tout. Photo suivante, c'est ça, c'est-à-dire un fossile, un foraminifère, Orbitoides media, hein, pour avoir le nom. Ça avait la forme d'une petite lentille, et en gros la dimension d'une petite lentille. Ici c'est une coupe avec les loches que vous avez à l'intérieur. Donc voilà, ça, vous voyez la lentille ici. Hein, tout le long, voilà, on l'a coupé en deux, et vous avez ces loges. Et donc ce charmant bestiau nageait dans les mers maastrichtiennes, hein, donc vraiment à la fin de l'ère secondaire, c'est-à-dire la disparition des dinosaures. Donc ils sont très caractéristiques de cette époque. Donc ils sont très caractéristiques de ces silex du Bergeracois, qui appartiennent aussi à cette étape finale de l'ère secondaire, du Maastrichtien. Et cette photo a été prise non pas dans un silex de Bergeracois, mais dans un silex archéologique qui vient de la Grotte du Four, c'est-à-dire dans la vallée d'Orval. Donc, tout à fait, ça nous permet de dire, ben, ce silex que l'on a trouvé dans la Grotte archéologique du Four de la vallée d'Orval, de la usine enrobée, là, il vient automatiquement du Bergeracois. Aucun problème. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de critères qui nous permettent d'identifier ces silex. Il y a des couleurs, il y a notamment ces fossiles, il y a un certain nombre de critères visuels ou binoculaire, et puis notamment ça. Et il y a d'autres des trucs fossiles beaucoup plus microscopiques que l'on voit. Bien. Donc, bien voir, l'intérêt de cette chose, c'est qu'on arrive à identifier un certain nombre de silex géologiques, d'en faire une fiche d'identité, et après, une fois qu'on a cette fiche d'identité, on va voir le silex archéologique et on va voir si on retrouve ces silex, si on va pouvoir identifier ces silex géologiques. Donc les origines géologiques et géographiques de ces silex. Photo suivante. Est-ce que je suis très clair, hein, donc ça, c'est un silex de Corésien. Silex de Puy d'Arnac. Silex jaspoïde. Cette belle couleur. Bon, ici, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est des silex un peu jaune moutarde. Avec des marbrures brunes. J'ai pris ce silex parce qu'il est caractéristique. Je vous ai dit, ce silex jaspoïde, on le trouve sur toute la autour du massif central, de la Châtre jusque dans le bassin de Brive. Or, celui-là, avec des marbres brunes, il n'existe qu'en Corrèze. Ce qui signifie que si je le retrouve quelque part en Périgord, je peux être assuré qu'il provient bien de Corrèze, de Puy d'Arnac, ou et pas de, par exemple, de Nontron. Donc, c'est des données, vous voyez, c'est toutes ces petites données qui nous permettent de connaître les origines de ces silex. C'est ce qui va nous intéresser. Photo suivante. Voilà un autre silex qui est un peu brun, mais c'est les silex meulières. Tout le monde connaît ça. Les silex, ils servaient à faire des meules. silex tertiaire, c'est-à-dire donc on n'est plus dans l'air secondaire, on est dans l'air tertiaire, silex lacustre, qui ne se rendait pas au fond des mers, mais qui se formait dans les lacs, silex meulière, donc qui était utilisé pour faire des meules, notamment jusqu'au début du XXe siècle, dans la région de Dôme. Voilà, des silex vacuolaires, enfin un certain nombre de critères qui ont aussi leur propre microfossile, et donc qui a été utilisé aussi par les hommes préhistoriques. Alors on le trouve dans la région de Dôme, mais on va aussi le trouver dans la région de Doria. Un silex différent, photo suivante. Bien, voilà. Donc maintenant, première chose, on a des silex que l'on arrive à identifier, dont on connaît les origines géologiques et donc géographiques. Ça va être du Doréen, ça va être du Mexicain, ça va être du Tertiaire, ça va être du Turonien, par exemple, comme ces silex du Fumélois. On va avoir toute une série de critères. Donc on arrive à les différencier, à les identifier de façon assez sûre, et donc on va les identifier dans les sites archéologiques. Et à partir de là, on va prendre les gîtes que l'on connaît dans la nature, silex du Bergeracois, silex du Fumélois, silex du Tertiaire ici, et puis il suffit de tracer des traits entre les sites archéologiques où ils ont été retrouvés, par exemple ici dans la vallée d'un désert, dans le bassin de Brive, et on voit tout de suite qu'on peut tracer des traits jusqu'à Aurillac, donc c'est silex très intéressant de la région d'Aurillac. Silex, ici les silex jaspoïdes puis d'Ardac, on va donc retrouver jusqu'à Montron, par exemple, ici. Donc, on prend l'origine des silex, les sites archéologiques pour une période précise. Ici, on est dans l'Aurignacien, donc le début du Aurignacien supérieur, et puis on trace des traits. Et on voit ce que ça donne. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une donnée assez nette, c'est que les traits ont plutôt tendance à se diriger entre l'Est et l'Ouest. Hein, enfin, ils sont plutôt horizontaux plutôt que vers la Charente, où ils sont relativement rares. Bien, ça c'est une donnée qui apparaît. Photo suivante, pour l'Aurignacien. On va prendre la période suivante, c'est-à-dire le Gravettien et Vénus de... Les Vénus, hein, vous voyez, c'est la période des Vénus, les grosses Vénus, c'est là. Vous voyez tout de suite, c'est la même chose. Des silex qui vont se diriger vers la Gironde, vers le Massif central, voire les silex qui viennent de cette région, donc toujours cette circulation est-ouest et peu vers le nord ou vers le sud. Bien. Donc ici on est dans le Gravettien et dans le Magdalénien, photo suivante, on retrouve encore la même chose. C'est-à-dire que pendant tout le paléolithique supérieur, on va retrouver systématiquement cette circulation des silex est-ouest, et non pas nord-sud. Même s'il y a un certain nombre de silex qui se baladent jusque dans les Pyrénées, il y a toujours cette répartition. Donc, pour quelles raisons ? Quelles sont les raisons qui amènent des circulations privilégiées de ces silex est-ouest ou est-est, plutôt que nord-sud, par exemple ? Bien, alors, donc, on a ce fait brut, et après, il faut essayer de le comprendre. Photo suivante. Bien, on va aborder cette fois-ci par un autre biais. On a vu la géologie, on va l'aborder par l'ethnologie. Ça, c'est une carte de l'Australie. On voit, vous voyez, ça a été fait par Kindal, un ethnologue australien qui a dessiné tous les contours de tous les groupes aborigènes, donc de tous les territoires de ces groupes aborigènes, qui ont peuplé l'Australie au moment de la colonisation de l'Australie. Vous voyez que que donc tout ce réseau, en fait, c'est, ce ne sont jamais que des territoires. Il y a des noms, naturellement, on ne le voit pas. Mais ce sont ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a, comme vous le voyez, il y a des très grandes disparités dans la superficie de ces territoires. Si vous prenez les territoires dans le désert australien ici, vous allez voir qu'il y a d'énormes territoires, par exemple ici ou celui-là, alors que si vous vous dirigez vers les côtes, vous allez vous rendre compte que les territoires sont beaucoup plus petits. Ça, c'est une donnée fondamentale de l'ethnologie de ces populations de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que ces chasseurs-cueilleurs, lorsque on comprend tout de suite que s'il y a des grands territoires, c'est qu'il y a, ce sont des régions désertiques, donc très peu, les ressources nutritives sont extrêmement faibles, alors que si on est près des côtes, on va avoir des régions beaucoup plus riches, donc où il va y avoir beaucoup plus de nourriture. Photo suivante. On va juste voir cette partie, comme ça, ce sera un peu plus clair. Vous voyez, donc voilà, ça c'était la partie nord-est, sud-est de l'Australie. Et vous voyez donc ces territoires sont très divers, et notamment près des côtes, ils sont beaucoup plus étroits. Tout simplement parce que ces populations de chasseurs-pêcheurs sont, comment dirais-je, sont dépendantes de la quantité de nourriture qu'ils ont dans leur environnement, d'une part. D'autre part, si la quantité de nourriture augmente, ils ne vont pas avoir tendance à avoir une population de plus en plus importante dans leur groupe. Il va y avoir des phénomènes de scission, ce qu'on appelle les nombres magiques, c'est-à-dire 50, 500. C'est-à-dire au-delà de 500 personnes, qui est même un nombre assez important, dans le groupe, il va y avoir des scissions automatique, parce que âge de la pierre, âge de l'abondance, ce sont des sociétés qui n'ont pas vraiment de classe sociale, donc pas de hiérarchie, et donc il va y avoir à l'intérieur du groupe des phénomènes de scission, des disputes, hein, on va dire comme ça, qui vont entraîner la partition du groupe. Donc il va toujours y avoir dans ces groupes un nombre, bon, naturellement c'est très, très 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 variable, mais disons qu'en gros, chaque groupe ne va jamais dépasser 400-500 personnes, quitte à avoir d'énormes territoires ou quitte à avoir des petits territoires. Je vous ai parlé de quelques centaines de personnes tout à l'heure pour parler de l'Aquitaine, on y est. Hein, ce sont quelques centaines de personnes, c'est en gros, on va voir donc un territoire. L'Aquitaine peut ressembler à un territoire tel que l'on peut en trouver ici, sur l'Australie. Photo suivante. Bien. Donc voilà. Chasseurs-cueilleurs, territoire plus ou moins vaste suivant la quantité de nourriture présente dans l'environnement. Ici, c'est les chasseurs du Kalahari, du sud de l'Afrique, les Bochimans. Donc un territoire qui est celui-là. Hein, le voilà, ce territoire. Et première chose, donc dans la mesure où ce territoire est relativement vaste, il va y avoir une exploitation de tout le territoire. Et cette exploitation va se faire tout au long de l'année. Donc au départ, on est février, janvier, décembre, voilà, novembre ici. On est à l'automne, et ces gens vont se déplacer tout le long de l'année. Si on va être en janvier, si on va être en février, mars, avril, mai, juin encore, et ça va finir en juillet, c'est-à-dire, oui, ici c'est l'automne, en fait c'est le printemps pour eux. Donc ici on va terminer dans l'hiver. Naturellement, ça ne correspond pas à nos saisons, c'est plutôt aux saisons sèches et saisons humides. Et ce qui est intéressant, c'est de voir donc que ce territoire est fréquenté, mais à différentes époques de l'année, selon un cycle. Photo suivante, on va revoir ce problème de cycle. Voilà, ici, on est dans le Groenland, chez les Esquimaux,
du Groenland, de la côte est du Groenland, chez les Massaliks. Voilà, ça c'est la, ça c'est le, leur territoire. Ils mangent, ils se nourrissent beaucoup de phoques, hein, c'est des esquimaux, tout à fait typique. Photo suivante. Et donc ils vont exploiter le, leur territoire, non pas avec des cycles. En bleu, ici c'est la période froide. Là. Et en, en vert, c'est la période tempérée, la belle saison, on va dire. Et donc il va y avoir dans cette période, dans cette année, un cycle en période froide, et il va y avoir pour chaque période, il va y avoir un lieu de un lieu, par exemple, pendant l'hiver, ils vont s'installer dans des maisons, il fait froid, dans des maisons sur la côte, là où il y a suffisamment de courant pour casser la banquise. Ça casse la banquise, donc les phoques vont fréquenter cette région, tout simplement, parce qu'ils peuvent venir respirer. Et donc c'est là où on va chasser le phoque, notamment le phoque au trou de respiration. Hein, donc on est ici, en plein hiver. Et puis après, on va chasser le phoque ici, sur le, qui, aux premières chaleurs, va bien s'étaler sur la banquise. Et puis ici, on est au début de la belle saison, on, c'est tout le groupe qui vient pêcher les amassades, c'est-à-dire les caplans. Là, dans leur lit de frayère, donc on va faire d'énormes stocks qui vont permettre de passer l'hiver. Voilà. Vous voyez, après, ici, on est dans pleine belle saison, et c'est la chasse aux phoques en kayak, dans, les, dans, dans une mer qui est libérée des glaces. Donc, vous voyez, ici, c'est la chasse, la pêche sur son nom. Vous voyez, tout, et chaque fois, ça se passe dans un lieu différent. C'est ça. Un lieu, une date, c'est un... Et, une activité, c'est un carnet de rendez-vous. Hein, c'est tout un carnet de rendez-vous qui se passe pendant tout l'été. Voilà, ça c'est un cycle de, d'Esquimaux. On va en voir un autre pour vous dire que je raconte pas des salades. Hein, voilà, ça c'est les pygmées. Pygmées de la forêt de d'Ituri, dans le Congo. Ce qu'il en reste aujourd'hui. Hein. Pareil, hein, mars, avril, mai, juin. Voilà la. Voilà le cycle, et il va y avoir pour chaque époque la récolte de miel, par exemple ici, des graines oléagineuses. Autre donnée très intéressante, là les groupes sont de 25-30 personnes ici, alors qu'ici, je ne sais plus où, 25-30, ça doit être ici, voilà, 70-100 personnes, c'est-à-dire qu'il y a aussi au cours de l'année des périodes où l'ensemble du groupe va se rassembler. Par exemple, chez les Bochimans, on va se rassembler autour des points d'eau pendant la période sèche. Hein, donc, toute une, ce sont des cycles qui correspondent chacun à des faits particuliers, des faits locaux. Photo suivante. Donc, ces cycles, ils existaient toujours. Ils existaient pendant le Paléolithique supérieur. Donc, on reprend, on revient vers nos chasseurs du Paléolithique supérieur. Chasseurs de rennes, essentiellement chasseurs de rennes. Or, les rennes actuelles, les caribous du Nord-Canada, ce sont des animaux qui migrent saisonnièrement entre la belle et la mauvaise saison. Une sorte de une migration dans la, notamment dans la toundra, dans la forêt boréale, la taïga pendant l'hiver, et ils vont remonter vers le nord dans la toundra, notamment au Canada ou en Sibérie. Donc ils remontent, mais ils redescendent dans ces grands troupeaux de rennes. Photo suivante. Voilà, par exemple, un mode de circulation, de transhumance, de circulation de ces rennes. Ici, c'est la baie d'Hudson, ici, on est dans le nord Canada. Et donc, ces rennes vont migrer ici pendant à la belle saison, au début de la belle saison, ils vont remonter vers le nord, ici, c'est le cas aussi ici, donc ils remontent vers le nord, et puis ils redescendent après, à la mauvaise saison, ils redescendent vers le sud, vers la forêt boréale. Bien, ça c'est comment dirais-je, un cas classique. Photo suivante. Bon, et l'intérêt de ces chasseurs de rennes, c'est en fait de les attendre à un endroit où on va pouvoir les chasser, et comme ils se circulent en masse, on va pouvoir les chasser en très grande quantité, c'est-à-dire plusieurs centaines de têtes, on va pouvoir tuer de véritables massacres, et on va les attendre à des endroits propices, ici, dans ces rivières, ici, à un moment où ils vont traverser des rivières, c'est-à-dire des plans d'eau assez larges, où les rennes ne peuvent pas tellement se défendre, et là, notamment avec des kayaks, on va pouvoir en tuer, on va en pouvoir en tuer énormément. Donc, première chose, transhumance de ces animaux ici entre le sud et le nord, et à un certain endroit, là où c'est particulièrement favorable, là où on sait que le renne ne va passer, automatiquement, on va l'attendre, on va lui préparer des embuscades, et on va le massacrer en masse. Photo suivante. Allez, autre donnée fondamentale. Ici, on est, vous voyez, dans le nord du Labrador, tout à fait là-haut. C'est cette pointe-là, pointe qui culmine avec une montagne ici qui culmine à 1500 mètres. Et là, c'est les rennes de la rivière George. Et même chose, ça, c'est les zones d'hivernage, ici en bleu. Et ça, c'est la zone d'estivage, ici en jaune. Là, c'est la zone de mise bas. On verra hein, si je. Oui, c'est ça. De mise bas des rennes. Notre renne qui migrait dans le Nord-Canada en latitude, entre le nord et le sud, là, migre sur des distances beaucoup plus petites en altitude. C'est-à-dire entre les basses terres pendant l'hiver, vers les sommets pendant l'été, jusqu'à 1500 mètres, ici en Labrador. Ça, c'est une donnée fondamentale parce que c'est là où on va avoir un modèle qui est beaucoup plus proche de notre propre modèle que l'on trouve en Aquitaine, au modèle supérieur. Photo suivante. Bien, alors, première chose, je vous dis, c'est des toutes ces sociétés, qu'on a de la Sibérie jusqu'au Canada, qui vivent surtout du renne, pratiquent ces massacres lors des migrations, et notamment, surtout, pendant la migration d'automne, c'est-à-dire le moment où le renne redescend de ses terres d'estive vers ses terres d'hivernage, et comme il va affronter l'hiver, il va être extrêmement riche en graisse, et il va avoir occasionnellement des peaux extrêmement de très bonne qualité. Donc, le moyen, c'est très simple, il s'agit d'attendre le troupeau et de l'amener grâce à des rabatteurs, c'est-à-dire à l'ensemble du groupe, hein, femmes, enfants, adolescents, qui vont rabattre les animaux vers un mur d'affût où les attendent les chasseurs. Ça, c'est un dessin qui a été dessiné dans le Labrador, donc sur les techniques de chasse de ces rennes. Photo suivante. J'en voudrais en montrer un autre. Ça, c'est des dessins qui ont été trouvés à Altai, dans le nord de la Norvège. On ne voit pas beaucoup, mais ici, voilà, ça c'est des chasses de rennes, ici. Et il y a des filets, cette fois-ci. Et il s'agit de les coincer, tout simplement, hein, de les coincer, de les tuer en masse. Hein, donc on va installer ici des filets, toujours pareil, des rabatteurs qui amènent, il faut les ramener ces animaux vers un lieu bien précis. Ça peut être un plan d'eau, mais ça peut être aussi un corral ou un filet comme ça, et qui vont permettre de tuer ces animaux en masse et faire des stocks pendant l'hiver. C'est la donnée fondamentale. C'est-à-dire que non seulement ces animaux vont affronter l'hiver, mais les chasseurs aussi vont affronter l'hiver. Donc il leur faut énormément de stocks de graisse pour pouvoir faire la soudure jusqu'à la belle saison. Et ça, c'est le fait très important. Photo suivante. Donc, voici à nouveau notre Aquitaine. Et donc, on comprend mieux pourquoi. C'est Est-Ouest. C'est tout simplement parce que c'est Rennes, tout simplement, migré non pas en latitude comme on a pu le croire, comme on a pu croire d'abord, mais comme l'a dit Bouchu dans les années 60, hein, c'est le premier qui a trouvé cela, Jean Bouchu, a montré que ces rennes en fait se déplaçaient non pas sur une très grande distance, mais sur une centaine de kilomètres entre l'ouest du Massif central et le périphérique, enfin l'Aquitaine. Donc, essentiellement comme ça, tout bêtement, ce qui explique ces déplacements toujours dans cette direction. Tout suivant. Donc, voilà, on commence à voir que cette concentration de sites, d'abord cette concentration de sites de Brive a une signification dans ce cycle des rennes, notamment dans ce balancement des rennes, cette transhumance, hein, comme le mouton entre le haut, les zones hautes vers les zones basses. Donc Brive, on peut comprendre qu'elle se trouve plutôt vers les zones hautes, donc plutôt dans les périodes, dans la période de tempérée. Et cette concentration absolument énorme dans la basse vallée d'Abézère a aussi une signification extrêmement importante. Photo suivante. Hein, oups, c'est pas très beau. C'est donc là, ici c'est le Valhalla. Le village de la Vézère, ici c'est la Vézère qui descend comme ça. Voilà, là vous avez les falaises de Logerie Haute, ici donc cet énorme site, en fait, tout le village de Zézi est un énorme site. La femme que je vous ai montré vient de là, de l'abri Pato, ici. Donc, ces énormes, bon, il y a Logerie Haute, Logerie Basse, la falaise des Zézi, la Madeleine, etc. On va voir la Madeleine, justement. Photo suivante. Voilà, donc, on voit un peu. Voilà cette falaise ici. Et donc, il y avait un énorme site à ce pied. Hein, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres de long. Hein, je ne sais plus combien ça fait bien 50 mètres. Concentration absolument énorme de silex et d'os, essentiellement du rail. Essentiellement du rail. 80. Généralement 90, minimum 90 à 100%, c'est du rêve. Donc il n'y a aucun problème, c'est des sites qui étaient spécialisés dans la chasse du rêve. Chassé essentiellement de rêve, et donc on comprend mieux, photo suivante, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que je vous ai parlé de ces chasses absolument énormes de l'automne. Voilà donc tous ces sites de la région des Étiques. Et vous voyez qu'ils se concentrent dans une région relativement étroite, c'est-à-dire là, c'est le bord du bourg des Zézi est ici. Là, vous avez Logerie, et ça se trouve ici, à la confluence de la basse vallée de la Vézère, ici, et de ce qu'on appelle la Beune, qui remonte ici. Notamment des sites très, très importants. Là, c'est du Magdalénien, mais on pourrait citer le site de Luneuil, ici. De l'Ocel, pardon, de l'Ocel. Bien, donc, la Madeleine qui se trouve ici, donc c'est tout un logerie basse, logerie haute. Cette concentration, eh bien, on va l'expliquer tout de suite, photo suivante, avec la. Vous voyez tout de suite, là j'ai tracé les deux itinéraires probables du Rhin qui redescend du bâti central, issu de la désert, et qui va être attendu dans cette région, dans une région où. Vous avez déjà des falaises, hein, si vous avez visité de chaque côté, donc on va avoir la possibilité de les coincer beaucoup plus facilement, de les coincer et de les tuer en masse, soit dans le Bézère, soit lorsqu'ils passent ici dans la rivière du côté Colli, ils passent ici à un petit col du côté de Saint-Genèse, puis ils redescendent dans la Beune, et puis on va les attendre aussi au moment où apparaissent les falaises. Et donc c'est là où on va tuer un maximum d'animaux, plusieurs centaines de têtes, où on va pouvoir faire des stocks, où on va pouvoir passer l'hiver sur ces stocks, sur ces animaux très riches en graisse. Bon. Voilà, là c'est à mon avis expliqué, hein, toute la région des Zézis, et donc il y a essentiellement ces chasses de début de mauvaise saison. au moment où les rennes redescendent vers leur terrain d'hivernage, du massif central. Photo suivante. Bien, donc, on commence à comprendre comment ça fonctionne. D'une part, ici, la région des Aisies, ici, qui était occupée pendant l'hiver. Là, les traits sont un peu fantaisistes, hein, je reconnais. Et puis, à la belle saison, le groupe éclate et va donc soit exploiter ici la région de Gironde, soit exploiter au contraire, remonter vers le bassin de Brive. Et donc voilà, le bassin de Brive, en fait, n'est jamais que la partie estivale d'une partie du groupe. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la totalité du groupe, ici, vous en avez juste une partie. C'est pour ça que les sites du bassin de Brive, je vous ai montré la grotte de Champs, la plus grande, est relativement peu occupée. Les grottes qui ont été occupées devaient accueillir en gros une trentaine de personnes, plusieurs familles, mais pas la totalité du groupe, c'est-à-dire pas plusieurs centaines de personnes. Donc, une petite partie du groupe. Donc, il faut bien voir, pendant l'hiver, tout le monde passe là pour à participer à ces chasses et donc va vivre sur ces stocks, en grande partie. Et puis, à la belle saison, tout le monde s'en va, et notamment vers le bassin de Brive, vont occuper différentes régions, la région de Fulbert, différentes régions. Photo suivante. Les autres données fondamentales, c'est que ces gens du bassin de Brive, on va retrouver des silex que l'on retrouve que là, quasiment, que là, ces silex d'Aurillac ici. J'ai mis longtemps à identifier ces silex parce que ça me paraissait tellement énorme, parce que vous voyez ici, je peux repasser à la... Voilà, ici, hein, il faut vous rappeler, dès qu'on passe au-dessus de 300 mètres, il n'y a plus aucun site. Et puis sur les monts du Cantal, il y a des glaciers. Ici, peut-être il est un peu grand parce que c'est à la période la plus froide. Bien, mais il y a ici, sur tout le plateau Limousin, il n'y a aucun site. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'il n'y a aucun site, par exemple, dans la région d'Aurillac, pourquoi on retrouvait ces silex systématiquement dans le bassin de Brive. Je peux reprendre la... non, dans l'autre sens. Voilà. Hein, donc, ce qu'on peut comprendre, c'est tout simplement que ces gens, le groupe, s'arrêtait dans le bassin de Brive parce que c'était là où c'était le plus confortable, là. Il y avait des cavités pour s'abriter, mais ça n'empêchait pas un certain nombre de chasseurs de monter sur le plateau, notamment jusqu'au pied des glaciers des monts du Cantal. Donc, ils devaient se balader en fait tout là, partout où le renne était monté pour exploiter les prairies du Limousin. Donc, vous voyez, petit à petit, on s'enrichit, et on comprend mieux comment toute cette région la gestion de cet espace, de cette région, avec des circulations et des occupations saisonnières. Voilà, donc le bassin de Brive, région estivale, photo suivante. Bon, ça c'était mon travail que j'ai fait pendant ma carrière, mais on peut se demander, bon, c'est bien, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de percevoir ces phénomènes de circulation, de gestion de l'espace? Bien, ça c'est vous connaissez tous ça, c'est une coupe de bois, ça veut dire du châtaignier, et tout le monde connaît ces cernes, hein, qui correspondent à chaque année avec des cernes annuelles, sombres ou claires, suivant la saison. Bien, et bien ce phénomène-là que tout le monde connaît, il existe aussi chez les animaux, notamment chez les poissons. Photo suivante. Voilà, ça c'est une photo qui a été prise par mon collègue Olivier Le Gall, qui travaillait sur les poissons, et qui a introduit cette méthode. Et ça c'est une alose, hein, et vous voyez tout de suite que sur les vertèbres elles-mêmes, la croissance des vertèbres est associée aux saisons, et que vous avez des zones sombres et des zones claires qui correspondent ici à à la belle saison, zone sombre, la mauvaise saison. Et donc, comme ça, on va pouvoir connaître à la fois l'âge de l'animal, en bon pour les cerfs, comme pour un arbre, mais aussi le moment où il va être, où il a été pêché. Sa saison de mort, ici, donc ici, il est mort en mai au début de la belle saison. Hein? Donc, ça c'est un cas. Photo suivante, il y a des choses beaucoup plus fines qui existent aussi. Ça c'est ce charmant garçon qui est maintenant au CNRS grâce à son travail justement. Donc William Rendu qui a travaillé aussi avec Céline Beauval à la chapelle au sein, s'est spécialisé dans ce type de travaux qui sont les saisonnalités. Mais au lieu d'étudier ces cernes de croissance que vous voyez sur des vertèbres de poissons, là il va les étudier sur des dents. Ici c'est des dents de bovinet. Naturellement, ça suppose un matériel beaucoup plus conséquent pour les étudier. Ici un microscope. Photo suivante. Et puis voilà, vous la voyez cette dent ici. Là voilà, c'est une ce qu'on appelle une lame mince, une sorte de tranche de saucisson ou de jambon, mais extrêmement, on la coupe et après on la polie petit à petit, c'est extrêmement, une épaisseur extrêmement faible, de l'ordre de quelques, du dixième de millimètre maximum. Donc il s'agit de préparer une dent, en fait on l'inclut dans une résine, et puis après on va commencer à la couper, puis on va petit à petit la polir jusqu'au moment où on va avoir juste une très fine pellicule que l'on va étudier sous le microscope, au suivant. Et donc, pareil, même système, voici cette dent, vous l'avez là-haut, hein, donc on va la couper, et on va étudier surtout cette partie parce que c'est là où l'aire d'observation optimale, hein, c'est marqué dessus, hein, donc c'est là où on va observer, il y a ce qu'on appelle du sément qui va s'accumuler, et ce sément va être différent suivant qui s'accumule pendant qui se forme, c'est de très minuscules phénomènes, hein, très minuscules phénomènes, va s'inscrire soit en bande blanche, soit en bande plus sombre. Et vous voyez, voilà, ça va être la dent. Et là, vous avez ces zones que l'on va pouvoir étudier. Et grâce à cette méthode, photo suivante, on va pouvoir connaître la saison de mort de l'animal. Pareil, exactement pareil. Donc on va pouvoir connaître la saison d'occupation du site. Ici, ce sont trois sites qui se trouvent dans le Quercy, dans l'île, c'est plutôt dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, le Puzoul et les Pérules dans le Lot. Donc, près du Massif central, en rouge, et on voit donc que ces sites ont été exclusivement occupés pendant la belle saison. Voilà, il y a quatre. Il y a Puzoul de Verse, Abrigandil, les Pérules, il y a deux couches. Et puis, vous voyez, cette occupation s'est passée d'avril-mai jusqu'en novembre. Fin octobre, début novembre. Donc, pendant la belle saison. C'est-à-dire que ces sites étaient bien occupés pendant la mauvaise saison, c'est-à-dire ces sites qui sont près du Massif central. Donc, ça confirme cette vision de ce balancement à la fois des rennes entre Massif central et Aquitaine, que l'on va retrouver donc des rennes et aussi des chasseurs qui viennent les chasser, qui les suivent, dont certains les suivent jusqu'au sur le Massif central. Voilà, photo suivante, je crois que c'est la dernière, c'est notre femme de la rue Pateau. Eh bien, on peut dire que cette femme de la rue Pateau, donc, qui a été trouvée dans le bourg des Aisés, a probablement, enfin, on peut rêver, mais on peut être. Il y a une très forte probabilité pour qu'elle ait aussi fréquenté même si on n'a pas de preuves, qu'elle ait aussi fréquenté la vallée de Planchetorp, mais la belle saison. Voilà, je vous remercie. Merci.
Est-ce que ces hommes qu'il y avait des concurrents? Est-ce qu'il y avait des animaux qui faisaient aussi la chasse aux rennes?
L'homme, depuis très longtemps, notamment le loup, a été le concurrent le plus. C'était le plus intelligent. Oui, oui. Ceci dit,